Bonjour et bienvenue sur YogiBiz Podcast, le yoga teacher training du marketing pour les yogipreneurs qui veulent impacter des millions de vies positivement grâce au yoga. Je suis Cécile, coach et accompagnatrice digitale spécialisée pour les professeurs de yoga. Et chaque semaine, je vous délivre des inspirations, stratégies et conseils marketing éprouvés et applicables immédiatement pour vous construire un business de yoga authentique et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti! Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode 26 de YogiBiz Podcast. Aujourd'hui, je te livre ma méthode pour planifier ton année 2021 et atteindre tes objectifs grâce au Quarterly Planning. Avant que tu ne sois trop embarqué dans la magie de Noël et que tu ne décroches pour la trêve hivernale, ce que je te souhaite, je voulais m'assurer que tu aies pris le temps de planifier ton année 2021. En tant que yogipreneur, tu as deux casquettes, celle du chef d'entreprise qui doit fixer les objectifs et celle de l'exécutant qui doit accomplir les actions pour atteindre ses objectifs. C'est très facile, je le sais, quand on est à son compte, sans direction précise, de se perdre rapidement, de se laisser distraire, de se sentir débordé, de partir dans tous les sens et de ne pas savoir comment avancer sur son projet. Heureusement, il existe des méthodes pour prendre en main sa productivité, mieux s'organiser au quotidien et surtout atteindre nos objectifs. Aujourd'hui, je vais te partager la méthode que j'utilise, qui est donc le Quarterly Planning, autrement dit une planification trimestrielle sur 90 jours. La fin d'année est vraiment le moment parfait pour penser à ce que tu veux réaliser l'année prochaine et dans quel état d'esprit tu veux vivre cette nouvelle année. Avoir de la clarté, comme tu le sais, et poser tes intentions te permettra de mettre toutes les chances de ton côté pour avancer sereinement dans la concrétisation de tes projets. Dans cet épisode, je vais donc te présenter cette méthode pour manager ton YogiBiz comme une pro, avec un process pas à pas pour fixer des objectifs efficaces et gérer ton emploi du temps au quotidien avec plus de sens et de sérénité. Avoir des grandes idées et des nouveaux projets, c'est bien, mais avoir un plan pour les atteindre, c'est mieux. Avant de démarrer, je voulais partager deux choses avec toi. Tout d'abord, j'ai décidé de t'offrir un template de mon tableau Trello d'organisation annuelle que tu pourras télécharger directement grâce au lien dans les notes de cet épisode pour préparer ton année 2021. Lorsque j'ai fait quelques stories récemment sur mon organisation journalière, vous avez été nombreux et nombreuses à me demander mon avis ou des conseils sur Trello. Donc j'ai décidé de vous offrir ce petit bonus si vous écoutez cet épisode. Vous aurez donc accès à mon tableau Trello, bien évidemment que vous allez pouvoir personnaliser. Petite note, recommandation, quand vous allez le télécharger, pensez à bien en faire une copie. Donc, pour vous inscrire sur Trello, c'est tout simple, c'est gratuit. Ensuite, avec mon lien, vous allez avoir directement accès à mon template. Donc, vous allez dans le menu de Trello, sur en haut à droite du tableau. Puis sur les trois petits points, et vous faites copier le tableau, garder toutes les listes et toutes les cartes, vous le renommez. Et il est à vous, vous pourrez l'exploiter. Deuxième petite chose, comme d'habitude, je profite de cet épisode pour partager un commentaire que j'ai reçu sur iTunes et ce commentaire m'a fait beaucoup rire parce qu'il est assez à propos avec le sujet d'aujourd'hui. C'est le commentaire de Olympe Duraz qui m'écrit « Timothy Ferris au féminin ». Alors, merci Olympe d'avoir pris le temps de me laisser ce commentaire. Et si vous ne connaissez pas Timothy Ferris, c'est un entrepreneur américain et c'est l'auteur du livre de productivité « La semaine de 4 heures », ce fameux ouvrage à lire absolument quand on est entrepreneur. Et derrière ce titre un peu provocateur de « La semaine de 4 heures », le message en fait essentiel de ce livre, c'est de travailler uniquement sur ce qui est important et d'apprendre à gérer justement son temps et ses priorités. Et je trouvais que c'était donc parfaitement à propos avec ce qu'on va voir aujourd'hui, de vous partager ce commentaire et donc une parfaite transition pour rentrer dans le vif du sujet. Alors la première étape que je te propose, c'est d'abord de prendre le temps de faire une revue de l'année qui vient de s'écouler. Avant de planifier ses objectifs pour l'année à venir, il faut toujours prendre le temps de faire un bilan. Et on prend rarement ce temps-là pour regarder dans le rétroviseur. Je fais aussi cet exercice avec mes coachés et les élèves de mon programme. De temps en temps, c'est vraiment utile de se poser la question sur ce qu'on a fait sur la semaine qui vient de s'écouler. Là, l'idée, c'est de faire le point sur l'année qui vient de s'écouler pour prendre conscience de ce que tu as fait, mais aussi de ce que tu n'as pas fait par rapport à peut-être ce que tu t'étais fixé comme objectif et d'en tirer des enseignements pour grandir de tout ça. Alors, je te propose quelques questions sur lesquelles tu peux prendre le temps justement de réfléchir. Prendre quoi noter, sinon tu pourras revenir à cet épisode à temps choisi. Alors, la première question à te poser, c'est justement quelles sont les choses que tu as accomplies cette année ? Prends vraiment le temps de réfléchir, de rebalayer ton année, de te la remémorer, revisualiser et note vraiment toutes les choses que tu as accomplies cette année, de la plus petite chose à la plus grande. Ensuite, au-delà de cette première réflexion, il y a une deuxième réflexion qui est très importante. C'est ce que tu as fait pour accomplir ces choses. Pourquoi ces choses-là se sont passées ? Si tu as réussi à les accomplir, c'est que tu as procédé d'une manière qui a fonctionné pour toi. Tu as donc à un moment donné, finalement, trouvé ta propre stratégie du succès. Tu as trouvé une manière de fonctionner qui t'a permis de mener un projet ou quelque chose à son terme. Et ça, c'est hyper important de l'identifier. Est-ce que tu as réussi par exemple dans l'urgence ? Est-ce que tu as réussi vraiment en étant focus que sur ça et tu n'as rien fait d'autre autour ? Est-ce que tu as réussi ce projet quand tu étais peut-être seule ou justement en confinement ou au contraire très entourée ? Dans quel état d'esprit, si tu t'en souviens, est-ce que tu étais quand tu as mis en place ce projet ? Mais aussi, est-ce que tu t'es fait accompagner ? Est-ce que quelqu'un t'a aidé ? Est-ce que tu as mis en place ce projet suite à une formation que tu as suivie ou autre ? Enfin, voilà, essaye de te remémorer ce qui s'est passé, pourquoi tu as réussi à accomplir ces choses. Et franchement, si tu arrives à mettre le doigt sur ce qui a marché pour toi, prévois de continuer à faire les choses qui te réussissent et note-toi justement aussi les outils et les ressources qui t'ont aidé pour réussir cette année, de manière à continuer à les utiliser l'année prochaine. Une troisième question à te poser, c'est qu'est-ce que tu voulais accomplir et que tu n'as pas accompli ? Pour X ou Y raison, mais justement, déjà dans un premier temps, fais le point sur ce que tu voulais accomplir et que tu n'as pas accompli. Et dans un second temps, pose-toi la question de savoir pourquoi ça ne s'est pas passé. Je pense que si les choses ne se passent pas, c'est qu'elles ne devaient pas arriver à ce moment-là. Et la question est donc de savoir si tu veux reprogrammer ces choses l'année prochaine ou les abandonner parce que finalement, si elles n'ont pas eu lieu, c'est peut-être qu'elles n'étaient pas suffisamment alignées avec toi ou au cœur de ce que tu as vraiment envie de mettre en place. Donc, je t'invite vraiment à prendre du recul là-dessus et à te poser cette question sur les choses que tu n'as pas accomplies cette année. Pourquoi ? Enfin, dans les dernières questions, quelle est la meilleure leçon que tu as apprise cette année et que tu veux emporter avec toi pour l'année prochaine ? Et qu'est-ce qui t'a rendue le plus heureuse cette année ? Tout comme tu peux aussi te poser la question de ce qui t'a le plus frustré cette année ou qui a été le plus gros challenge pour toi. Toutes ces petites questions mises bout à bout vont vraiment te permettre de faire un point sur cette année, de voir quelles ont été tes forces, qui t'a réussi et ce que tu peux réutiliser et emmener avec toi pour l'année à venir ou au contraire, ce que tu dois laisser derrière toi. Une fois que tu as fait ce travail rétrospectif sur la big picture, on va dire, il est temps de rentrer dans le détail des chiffres. Et alors ça, je reste persuadée que c'est peut-être un exercice que tu fais moins souvent. Mais en tant que yogipreneur, il faut que tu apprennes à connaître tes chiffres et à être au clair sur tes indicateurs. Alors, tout d'abord, c'est de faire un point sur tes chiffres en termes de revenus. Est-ce que tu sais combien de revenus tu as généré cette année? Est-ce que tu sais quelles ont été tes dépenses, dans quoi tu as dépensé de l'argent pour ton activité et combien précisément? Est-ce que tu as fait le point sur combien tu t'es rémunéré et quel a été ton profit? C'est quelques chiffres sur lesquels il est indispensable de ne pas faire l'autruche et de faire un point objectif. Et la deuxième partie un peu plus chiffrée, elle est réservée justement à ta partie marketing et communication. Tu dois pouvoir dresser un bilan de ton évolution en termes de visibilité et dans les actions que tu as menées pour te faire connaître, pour vendre tes produits, pour vendre tes services, pour communiquer. Est-ce que tu sais, par exemple, si le trafic sur ton site entre cette année et l'année dernière a augmenté et de combien? De combien ta liste d'abonnés à ta mailing list a augmenté? Est-ce que tu as développé en nombre d'adhérents ta page Facebook, par exemple, ou ton groupe privé Facebook? Combien de personnes te suivaient sur Instagram à -1 et combien te suivent aujourd'hui? Quel est aussi ton taux d'engagement? Est-ce que tu as un compte Pinterest et auquel cas, de la même façon, quel est le bilan de Pinterest? Sur ta chaîne YouTube également, est-ce que tu as plus d'abonnés? Etc, etc. Alors, si tu n'en as pas la moindre idée pour cette année, ce que je te conseille, c'est de faire un point, en tout cas à date, sur ces indicateurs. Regarde les plateformes sur lesquelles tu es présente, les médias que tu utilises, tout ce qui vraiment est directement lié à ton business de yoga et que tu utilises pour ton marketing, ta communication, tes ventes. Fais-toi un petit récap de ces données-là, un petit tableau, et comme ça, l'année prochaine, à la même époque, tu pourras faire cet exercice de façon plus précise et mesurer les évolutions. Et ça, c'est super important. En tout cas, si tu n'as pas les chiffres exacts aujourd'hui, ce que tu peux quand même faire, c'est te poser la question de savoir quelle action tu as menée et qui t'a apporté le plus d'impact dans le développement de ta communauté et les meilleures leçons marketing que tu retiens cette année par rapport à ce que tu as mis en place et qui a fonctionné. Je te donne un exemple concret. J'ai fait fin de l'été une masterclass avec Eversports, ma masterclass sur Instagram qui est d'ailleurs disponible dans ma bio encore en téléchargement. Cette masterclass avec Eversports, qui est donc un partenaire, m'a permis à l'époque de doubler mon nombre d'abonnés sur ma mailing list. J'en retire donc moi comme leçon que les collaborations sont très porteuses dans mon activité et développer la mailing list, je pense que tu sais maintenant, si tu me suis depuis un petit bout de temps, à quel point c'est important, puisque c'est essentiellement dans notre mailing list qu'on va convertir nos abonnés en clients. Donc voilà un exemple d'action pour moi cette année qui a eu un vrai impact dans le développement de ma communauté et c'est un petit peu le travail que je t'invite aussi à faire à défaut d'avoir des chiffres précis, de te poser ces questions-là pour savoir justement ce qui fonctionne et recommencer, continuer à faire ce qui fonctionne. Donc une fois que tu as fini ce premier travail, cette première étape, je t'invite déjà vraiment à prendre le temps de célébrer tout ça avant de passer à la suite. Vraiment, vraiment, c'est super bien d'avoir pris ce temps de regarder dans le rétroviseur, de faire un bilan, de mettre en avant et de garder à l'esprit ce qui fonctionne et ce que tu vas emmener avec toi l'année prochaine et de célébrer tout ça. Ça n'a pas été forcément une année comme les autres, mais je suis sûre que qu'il peut en ressortir plein de choses très intéressantes pour continuer à développer ton activité. Deuxième étape, c'est le moment de découvrir la méthode du quarterly planning. Donc, comme je le disais, c'est une méthode de productivité qui consiste en une planification trimestrielle sur 90 jours. Le meilleur moyen d'atteindre tes objectifs consiste à les découper et à travailler trimestre par trimestre. Donc, ce qui signifie d'avoir un objectif spécifique à atteindre sur une période de 90 jours. 90 jours, c'est le timing idéal à la fois pour accomplir tout en restant motivé et pas trop long pour ne pas justement se disperser. Donc avant d'en arriver là, on va d'abord se demander dans un premier temps tous les projets qu'on a envie d'accomplir cette année. Tous ceux avec lesquels on se sent aligné à cet instant et qu'on a vraiment envie de réaliser. Autorise-toi à rêver, autorise-toi à voir grand. T'as tout ce qu'il faut en toi pour aller réaliser ces objectifs et en plus, on va mettre en place une méthode pour t'aider à les réaliser. Donc vraiment, liste sur un papier tout ce que tu as envie de réaliser. Alors bien évidemment, tu peux aussi dresser des projets perso. Moi, je vais te parler uniquement de tes projets pro. Mais voilà, dresse vraiment tout ce que tu as envie de faire cette année, projets perso inclus, parce que tu pourras les intégrer bien évidemment dans ta planification. D'ailleurs, si tu veux qu'ils se réalisent, il faut les intégrer. Une fois que tu as listé ces projets, tu vas les reprendre un par un. Et tu vas t'assurer d'attribuer à chaque objectif un indicateur de performance. Alors, derrière ce terme compliqué d'indicateur de performance, l'idée en fait, c'est qu'on soit capable de mesurer in fine l'atteinte de notre objectif ou pas. Développer son business, par exemple, c'est pas un objectif mesurable. Donc en fait, c'est un objectif qui n'a pas de sens parce qu'il n'a pas de métrique pour l'évaluer. Ok, par contre, développer ton activité de yoga pour atteindre un revenu, enfin, ou un chiffre d'affaires de 60 000 euros en 2021, ça, par exemple, c'est un objectif avec son indicateur de performance qu'on va donc pouvoir évaluer, mesurer, savoir si on l'a atteint ou pas. Je te donne d'autres exemples, par exemple, d'autres exemples d'objectifs. Ça pourrait être créer et lancer ton premier programme de yoga en ligne. Bon, en l'occurrence, si c'est le premier, créer et lancer, ça se suffit à soi-même pour être un objectif mesurable. Mais tu pourrais même rajouter faire 10 000 euros de vente sur ce premier lancement ou toucher 15 personnes, enfin voilà, vendre ce programme à 15 élèves. Voilà, tu peux rajouter autant de métriques que tu le souhaites. Plus tes objectifs sont précis, plus, entre guillemets, ils sont faciles à atteindre et en tout cas, tu as une vision claire de là où tu veux aller. Un autre objectif, ça pourrait être d'organiser ta première retraite de yoga. Pareil, si tu veux un peu plus loin, tu peux dire combien de personnes tu souhaites avoir à cette première retraite de yoga. Ça peut être aussi lancer un podcast avec un épisode par semaine. Donc là aussi, tu vois, on s'engage dans quelque chose qui est mesurable avec un épisode de podcast par semaine ou encore développer ta liste email et passer de 500 à 1000 abonnés par exemple. Donc, sur le premier jet, le premier brainstorm que tu as fait avec tous les objectifs que tu as envie de réaliser en 2021, dans un second temps, l'idée, c'est de leur attribuer un indicateur de performance comme les exemples que je viens de te donner. Et maintenant que ces grands objectifs sont définis, l'idée c'est de travailler sur ce que tu veux réaliser le premier trimestre, donc sur cette fameuse période de 90 jours. Alors, selon la taille de tes objectifs, tu peux en planifier plusieurs à atteindre sur 90 jours. Si en revanche c'est un plus gros projet, tu ne planifieras qu'un seul gros projet sur ces 90 jours. C'est un petit peu vraiment l'objectif. Par exemple, moi, sur cette année, au deuxième trimestre, donc avril, mai, juin, j'avais pour objectif de sortir mon podcast et de créer un lead magnet pour lancer, enfin un lead magnet, donc le cadeau gratuit pour récupérer les adresses mail, pour lancer ma liste email. Ok, donc pour moi, c'était deux objectifs qui étaient réalisables sur un trimestre. Donc, je les avais notés pour mon trimestre 2, T2. Sur ce dernier trimestre, j'ai focusé uniquement sur lancer mon programme en ligne parce que par rapport à cet objectif-là, un trimestre, c'était pas de trop. Ok, donc selon l'ampleur de l'objectif, du projet, soit tu en gardes un pour le premier trimestre, soit un, deux ou trois en fonction de leur taille pour le premier trimestre. Alors ensuite, si tu le souhaites, tu peux répartir tous les objectifs que tu viens de définir sur l'ensemble des 4 trimestres pour avoir une vision globale. Si tu sais déjà qu'il y a des choses qui correspondent à certaines dates ou certaines périodes de l'année. Mais ensuite, on va laisser les 3 trimestres suivants pour se consacrer en détail vraiment uniquement sur le premier trimestre de 90 jours. Et à la fin ou milieu du premier trimestre, peut-être tu viendras travailler sur l'élaboration de ton deuxième trimestre en suivant finalement la même méthode. Donc là, la première chose à faire, c'est de se noter clairement ton objectif aussi de revenu sur ce premier trimestre. Alors ça fait pas forcément partie de tous les autres objectifs que tu t'es fixé pour le premier trimestre ou de ton gros objectif que tu t'es fixé pour le premier trimestre, mais c'est quand même important qu'au début de chaque trimestre, tu fasses un point sur tes objectifs en termes de revenus. Donc, si je répartis bêtement, hein, si tu t'es fixé 60K sur l'année, ça veut dire que tu as un objectif trimestriel moyen de 15K, puisqu'on a 4 trimestres dans l'année, et donc en moyenne de 5000 euros par mois. Et donc à partir de ça, je t'invite à lister d'abord ce qui est récurrent dans ton emploi du temps et combien ça te rapporte, c'est-à-dire les cours que tu donnes déjà, ce qui fonctionne déjà, ce qui te rapporte déjà de l'argent dans ton activité, ce qui va te permettre aussi de prendre conscience du delta et de ce que tu dois aller chercher pour réussir à aller vers ton objectif de revenu. Ça, c'est ce que je te conseille de faire en préambule au début de chaque trimestre et même de chaque mois, de refaire un point, c'est super important. Peut-être que tu vas atteindre tes objectifs ou peut-être pas en termes de revenus, mais déjà de savoir quelle est ta guideline, ça c'est super important. Et ensuite, tu vas donc garder les projets que tu veux accomplir sur T1. Et on va venir découper ces projets, ces plus gros objectifs en actions, en tâches à réaliser. Alors, je vais juste prendre le temps à ce stade de t'expliquer la différence entre tes objectifs aspirationnels, donc ceux dont on vient de parler, et tes objectifs d'action, donc tes actions, autrement dit. L'objectif aspirationnel, c'est l'objectif justement avec un montant de revenus ou un nombre d'abonnés que tu veux à ta liste email. C'est des objectifs que tu vas pouvoir utiliser pour mesurer ta progression et c'est pour ça qu'on a mis un indicateur de performance sur chaque objectif. Mais tu peux pas les contrôler au jour le jour à 100%. Parce que finalement, c'est la résultante des actions que tu vas mettre en place. Par exemple, ajouter 500 inscrits à ma newsletter, tu vas pas tous les jours regarder si tu es à 500 inscrits sur ta newsletter et de toute façon, ça va pas se faire en une journée. À l'inverse, un objectif d'action, c'est par exemple, pour développer ma liste de 500 abonnés, j'ai besoin d'être interviewé, par exemple, sur 10 podcasts. Et ça, en fait, c'est une action au service de ton objectif, de ton gros objectif que tu veux atteindre. C'est un objectif qui est plus contrôlable et sur lequel tu as vraiment le pouvoir d'agir. C'est les fameuses actions de ta casquette d'exécutante. C'est une action, comme je dis, à cocher que tu dois atteindre, que tu dois réaliser pour atteindre ton plus gros objectif qui est lui donc ton objectif aspirationnel. Donc par exemple, faire 10 interviews effectivement, ça va probablement t'offrir de la visibilité. Tu vas du coup te faire connaître par d'autres audiences. Si à chaque interview, tu fais la promotion par exemple de ton cadeau gratuit pour attirer de nouvelles personnes sur ta liste email, forcément ta liste email va grossir et donc plus ta liste email grandit, plus potentiellement tu as de clients qui pourront te générer du chiffre d'affaires quand tu vas avoir quelque chose à vendre. Donc en menant cet objectif d'action, ou on va résumer en disant cette action, tu œuvres pour ton objectif de revenu et pour ton objectif de développer ta liste email de 500 à 1000 inscrits, mais avec une action que tu peux mesurer. C'est-à-dire que voilà, tu dois participer à 10 podcasts, et ben pour faire ça, tu vas pouvoir découper ce qu'il faut faire en tâches et t'affairer chaque jour à réaliser ces tâches de façon à ce que petit à petit, tu réalises ces 10 interviews au service de ton plus gros objectif. Donc, c'est vraiment important de découper ces objectifs en actions sur 90 jours et c'est donc souvent ce petit secret qui permet de mieux atteindre ces objectifs. Alors, maintenant que tu as ça en tête et en fonction du gros objectif ou des plusieurs petits objectifs que tu as choisi d'accomplir sur le premier trimestre, tu vas pouvoir faire la liste de toutes les actions possibles qui te viennent par la tête, hein, brainstorm à fond, prends des post-it comme tu veux, mais faire la liste vraiment de toutes les actions possibles, de la plus petite à la plus grosse, à la celle que peut-être tu oses le moins faire pour l'instant, mais pour atteindre cet objectif. Si tu veux, je te donne un exemple. Admettons par exemple que tu veuilles, que tu aies besoin par rapport à tes objectifs de revenus justement de trouver 5 nouveaux clients en cours privé par mois qui sont censés te rapporter par exemple à raison d'une heure par semaine X euros donc multiplié par 5 clients. Voilà, c'est un de tes objectifs sur T1. En termes de tâches et donc de petites actions pour trouver ces 5 nouveaux clients, déjà, il va falloir que tu travailles sur ton offre. C'est quoi ton cours privé? Il y a quoi dedans? Ça coûte combien? C'est sur quel jour? Quel créneau horaire, etc., etc. Ensuite, si tu veux les proposer de manière digitale, il va falloir que tu écrives une page de vente. C'est-à-dire que tu vas proposer ton service, il faut que les gens y voient ça sert à quoi, il y a quoi dans tes cours, etc. Donc, il va falloir écrire la page de vente, créer la page de vente. Tu vas peut-être aussi te dire qu'il faut que tu en parles à tes élèves que tu connais le mieux parce que c'est des élèves qui, par bouche à oreille, ont l'habitude de t'apporter des clients, d'autres élèves. Donc voilà, tu vas peut-être focusser pour en parler à ces élèves réguliers. Tu vas probablement écrire un mail à ta liste pour leur annoncer justement que tu viens de créer une offre de cours particulier ou que tu as des nouveaux créneaux à prendre en termes de cours particuliers. Tu vas probablement devoir écrire des posts sur les cours privés. C'est quoi les bénéfices d'un cours particulier? Comment ça se passe un cours particulier avec toi? Le témoignage de quelqu'un qui prend des cours en particulier avec toi? Les fausses croyances sur un cours particulier, par exemple, que ça coûte extrêmement cher? Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Mais voilà, tu vas peut-être publier des posts pour finalement parler de tes cours privés. Donc tout ça, ça se prévoit. Tu vas peut-être faire un Facebook Live avec des gens qui prennent des cours privés avec toi. Tu vas peut-être écrire une séquence de bienvenue pour les élèves qui te rejoignent en cours privé en leur envoyant, par exemple, à chaque fois qu'ils signent justement pour ces cours privés avec toi, peut-être 3 vidéos sur les fondamentaux du yoga ou un journaling à compléter au fur et à mesure de leur séance ou un questionnaire pour mieux les connaître. Donc tu vois, là je sais pas, j'ai pas compté, mais on est déjà à près d'une dizaine d'actions à mener pour réussir à trouver ces 5 nouveaux clients, ces 5 nouveaux élèves en cours privé sur T1. Et donc tout ça c'est super important et c'est ce qui va faire que du coup tu vas vraiment te focusser sur toutes ces petites actions, tu vas exécuter ça en fait au jour le jour et ça va faire boule de neige pour t'amener à la réalisation de ton objectif. Et l'idée c'est donc de brainstormer sur toutes les actions que tu vas mettre dans ton calendrier pour justement atteindre tes plus gros objectifs. On en arrive donc à la troisième étape qui est de prioriser et planifier toutes ces actions. Et très souvent, on a déjà pas mal de gens qui s'arrêtent déjà à leurs gros objectifs. Donc effectivement, imagine déjà tout le travail qu'on a fait depuis tout à l'heure. Si on en était resté qu'à nos gros objectifs du début, je pense que tu vois un petit peu l'importance vraiment d'aller plus loin dans tout ça. Ensuite, on a des gens qui quand même mettent des indicateurs de performance et se disent à peu près quand est-ce qu'ils veulent réaliser ces objectifs dans l'année, qui détaillent peut-être un petit peu les actions, mais qui s'arrêtent là. Et en fait, justement, c'est maintenant le moment où on va répartir ces étapes dans ton agenda sur 3 mois pour se dire qu'est-ce qu'on fait, quand, comment, combien de temps on y accorde, comment on organise tout ça sur les 3 mois à venir. Et vraiment, cette étape-là, elle est indispensable, encore une fois, parce que c'est la moindre petite action et l'effet cumulé de toutes ces actions qui va faire qu'on va arriver à notre objectif, entre guillemets, sans trop s'en rendre compte. Donc là, à ce moment-là, tu peux tout simplement utiliser un agenda, soit un agenda papier, soit un agenda Google, soit un gestionnaire de projet comme Trello. Moi, je dis Trello, alors c'est le plus basique, mais c'est très efficace. Et d'ailleurs, donc comme je te l'ai dit en préambule, je t'offre mon template Trello, qui est mon template de base pour planifier mon année, que tu peux télécharger donc en suivant le lien dans les notes de cet épisode et que tu peux utiliser si tu veux à ton tour pour faire cet exercice. Et à partir de ce moment-là, après, il y a plusieurs méthodes pour t'organiser. Soit tu décides de dédier des semaines entières à un projet. Par exemple, si tu as deux ou trois petites actions, tu dis bah janvier, je fais le podcast. Février, je lance ma liste email. Enfin, d'ailleurs, je te conseille de faire dans l'autre sens et ainsi de suite. Donc, tu peux dédier des semaines entières à un projet, l'achever et ensuite passer au suivant. En te bloquant par exemple des créneaux horaires de 2 heures par jour, tous les jours, pour travailler sur ton projet. Soit tu dédies des jours à un projet, comme par exemple tu dis bah, tous les lundis, par exemple, je travaille sur le projet 1, tous les mardis, mercredi, jeudi, je travaille sur le projet 2, le vendredi, je travaille sur le projet 3, ou pas, s'il n'y a pas plusieurs projets, mais voilà, tu peux dédier des jours, hein, c'est le fameux batching par jour. Moi, je travaille beaucoup comme ça. Soit tu décides de travailler sur tous tes projets un petit peu tous les jours. Alors, je recommande moins cette méthode. Au demeurant, on est tous différents, donc pourquoi pas, à toi de trouver ce qui te convient le mieux. Moi, j'ai une prédilection pour les jours dédiés, mais c'est vraiment très personnel. Et il se peut même qu'à l'avenir, je travaille plutôt par trimestre et par semaine, carrément cumulé. Par exemple, première semaine du trimestre, créer tout mon contenu. Par exemple podcast, newsletter et Instagram, et puis peut-être les 3 semaines qui suivront tous mes lives de programme ou tous mes coachings. Voilà, donc après vraiment c'est en fonction aussi de ton organisation personnelle, donc c'est ok. Et la quatrième et dernière étape, une fois que t'en es là, ça va être finalement de répartir ces tâches semaine par semaine et jour par jour. Donc moi, je me fixe des objectifs à réaliser par jour. Je me fixe 3 objectifs à réaliser par jour pour être toujours dans une dynamique d'avancement. Et même si ce sont de tout petites tâches, comme je le disais tout à l'heure, l'effet cumulé fait qu'on avance quand même vers notre plus gros objectif. Donc à ne pas sous-estimer. Si un jour tu es en manque d'énergie, tu es plus fatigué, même si tu fais qu'une petite tâche, dis-toi que tu œuvres et que tu es en train de travailler au service de ton plus gros objectif. Donc cette méthode, vraiment, elle est archi complète et elle te permettra de passer plus facilement à l'action et surtout de savoir ce que tu as à faire au jour le jour, sans te réveiller le matin en disant « je fais quoi aujourd'hui pour avancer vers mes rêves ? Je fais quoi aujourd'hui pour réaliser mes gros projets ?» Donc vraiment, voilà, tu définis tout ça sur le trimestre et le matin quand tu te lèves, ben, tu regardes ce que tu as planifié. Et puis, tu fonces, t'exécutes ces petites tâches et au cumulé, tu verras à la fin du mois, quand tu relèveras la tête et que tu feras le bilan, bah, tu auras probablement réalisé les objectifs que tu t'es fixés. Alors, mes 2 derniers petits conseils par rapport à ça, c'est de penser à faire le point. Alors moi, je fais même un petit point chaque jour parce que je me fixe 3 objectifs par jour. Donc effectivement, je fais le point au quotidien. Mais déjà, pensez à faire le point chaque fin de semaine sur ce que tu as accompli. Et à ce moment-là aussi, ne pas hésiter à réajuster. Alors, c'est pas parce qu'on a défini globalement la stratégie sur 3 mois qu'on peut pas réajuster. Tu peux avoir eu un empêchement, être malade ou autre. Donc c'est ok. Mais ce qui est important, c'est justement de réajuster. Et c'est vraiment aussi ça le secret, c'est de faire cette petite réunion objectif avec toi-même toutes les semaines, comme si tu devais rendre des comptes finalement, et de regarder ce que tu as accompli et réajuster plutôt que de te laisser submerger et te décourager si toutefois tu as pris du retard. Si tu as pris de l'avance, tant mieux. Et puis mon deuxième conseil, c'est aussi de te trouver une business friend, une accountability partner comme on dit, pour faire un point une fois par semaine avec elle ou avec lui. C'est des fois aussi un petit peu plus engageant de faire le point avec quelqu'un et de se dire, t'en es où, j'en suis là par rapport aux actions que tu devais faire cette semaine. Et donc, la semaine prochaine, je m'engage à faire ça, rendez-vous dans une semaine et on fait le point. Donc, moi, en tout cas, je le fais avec ma business friend, même si je dois avouer qu'en ce moment, c'est un petit peu perturbé. Mais honnêtement, je trouve que c'est vraiment, ça a vraiment de la valeur ajoutée. Dans le business. Donc, je te conseille de trouver ta business friend pour le faire. Donc, en synthèse, si on reprend, l'idée, c'est donc de planifier sur 90 jours et donc là, en particulier, sur le premier trimestre 2021. Pourquoi 90 jours ? Parce que c'est à la fois suffisamment court et suffisamment long. Donc, on a plus de chances de rester motivé et de passer à l'action au quotidien en restant focus. Tous les jours, on va se rapprocher de notre objectif sans s'en rendre compte, entre guillemets, même si donc ce sont de toutes petites actions qu'on mène step by step. Planifier sur 90 jours, ça nous permet aussi de planifier de manière plus juste et de réduire les chances que quelque chose d'inattendu nous empêche de réaliser notre objectif versus planifier toute l'année. Et on sait très bien aujourd'hui qu'on ne sait pas toujours où on va ou ce qui peut se passer. Alors que sur une période de 3 mois, ça reste quand même un petit peu plus sûr. Bien évidemment, c'est aussi une méthode qui permet d'atteindre plus facilement donc ces grands objectifs, de grands objectifs. Et dernière petite chose non négligeable, ça laisse la place pour se tromper. Si tu réalises que tu t'es trompé dans la direction que tu prends ou de ce que tu es en train de faire et que les choses finalement ne se passent pas comme tu l'avais imaginé, la bonne nouvelle, c'est que tu auras entre guillemets perdu 30, 60, 90 jours dans le pire des cas. Mais ça veut dire qu'il te reste toute l'année, tout le reste de l'année pour pivoter, pour changer de stratégie et quand même atteindre ton objectif et tes autres objectifs. Et donc, ça, c'est aussi se laisser la chance de se tromper, laisser de la place pour se tromper. C'est aussi important parce que quand on est entrepreneur, on est aussi dans un mécanisme de test and learn. Je teste, j'apprends, je recommence. Et donc, c'est important de se dire, ok, je me lance dans ce projet et peut-être qu'effectivement, ça va pas se passer comme je l'avais imaginé. Et donc, je vais pivoter, je vais bifurquer, mais c'est ok, j'aurais pas perdu toute mon année à travailler un peu tous les mois, toutes les semaines sur un gros projet pour finalement arriver en fin d'année, avoir un peu traîné ça pendant 12 mois et me rendre compte que c'était pas le bon projet. Donc, c'est aussi pour ça que c'est vraiment bien de planifier un objectif et de se focusser dessus pendant 90 jours max. Voilà, je conclurai là-dessus. J'espère que cet épisode t'a été utile. Et je voudrais te rappeler une citation célèbre de Saint-Exupéry qui dit « Un objectif sans un plan est juste un vœu ». Donc maintenant, c'est à toi de jouer pour 2021. N'hésite pas à me partager tes commentaires sur cet épisode sur iTunes ou à partager cet épisode en story, même à tes élèves, car ils ont peut-être besoin eux aussi de cette méthode pour planifier leur année. Je reste disponible quant à moi en message privé sur Instagram si tu as des questions sur mon compte @yogibizcoaching. Et je te dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Bye!